voudrais en tout cas prendre avec vous un texte dans l'évangile de Luc chapitre 22. Et comme quelqu'un est à l'écran et peut apporter Luc 22 du verset 35 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 22 du verset 35 jusqu'au verset 38. Je vous lis le texte. C'est Jésus qui parle. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils répondirent, de rien. Et il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, cela suffit. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons nous placer maintenant devant l'autorité de ta parole et devant de ce que tu veux nous dire. Ouvre nos cœurs, rends-les réceptifs aux enseignements, aux exhortations que tu nous adresses, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ce que tu veux et ce que tu attends de chacun de nous. Que ton nom soit béni dans ces moments particuliers où nous nous plaçons sous l'autorité de cette parole, et conduis toutes choses pour l'honneur de ta gloire en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur bien-aimé. Amen. Je crois que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous sommes toujours dans cette période entre le Pâques et l'Ascension, entre ce moment qui a bouleversé l'ensemble du paysage religieux du monde dans toute son entièreté. En ce moment qui a vu l'accomplissement du plan de salut grâce à la mort de Christ et grâce à sa résurrection. Alors vous allez dire probablement qu'il va parler de ce qui s'est passé entre sa mort et son ascension, bien non. Je me suis reporté un tout petit peu avant, juste avant ces événements. Et juste avant ces événements, Jésus fait une déclaration qui va nous plonger dans quelque chose de très particulier. Celui-ci va faire une déclaration qui a forcément deux choses à mettre en valeur. La première chose qu'il veut mettre en valeur, c'est celle qui se trouve au verset 35. Il veut mettre en valeur la condition des disciples pendant toute la période où Jésus était avec eux, où ils ont obéi aux sollicitations du Maître, où ils ont désiré servir avec respect, où ils étaient confiants dans tout ce qu'ils faisaient, dans tout ce qu'ils entreprenaient, sans s'inquiéter de quoi que ce soit, ni de ce que l'avenir allait leur réserver. Leur action se résumait en trois choses. Servir, obéir, faire confiance. On pourrait dire, moi, tout va bien. On verra après. La deuxième chose qui apparaît, c'est au verset 37. C'est l'accomplissement de ce que l'Ancien Testament avait mentionné, notamment dans ce fameux passage d'Ésaïe 53. Concernant l'avenir terrestre de Jésus, qui montre clairement les répercussions que cela allait avoir sur la vie future des disciples. Et donc, ça nous concerne au plus haut degré. Analysons peut-être un tout petit peu la première partie. Vous avez vu que Jésus le rappelle, les répercussions que sa présence a eues sur le quotidien des disciples. Tant qu'il vivait dans l'obéissance, tant qu'il servait avec joie, Tant qu'il lui faisait confiance, le constat est simple. Alors qu'il n'avait rien, pas de bagages, pas d'argent, pas de chaussures, ils n'ont pourtant jamais manqué de rien. Et les disciples reconnaissent cette réalité. Jésus leur dit, « Avez-vous manqué de quelque chose ?» Et il dit, « Non, Seigneur, on n'a manqué de rien. » Si je devais déjà m'arrêter à cela, on pourrait déjà faire une déclaration importante pour chacun d'entre nous, qui consiste à dire que lorsqu'on entre dans cette phase qui consiste forcément à servir, à obéir, à lui faire confiance, eh bien cela veut dire que seule la présence et l'action de Christ suffit en tout et pour tout. Ah! Si je devais m'arrêter à cela ce matin, mais à soir, j'aurais dit « Waouh !» Mais en même temps, vous allez vous dire « Pourtant, c'est pas comme ça que ça se passe tous les jours. » Et pourtant, j'essaie de servir, j'essaie de lui faire confiance, j'essaie éventuellement d'obéir, je fais de mon mieux, et donc, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je devrais pourtant ce matin vous rappeler les faits saillants de notre vie à partir du moment où nous avons saisi le salut par grâce. Je voudrais vous rappeler le prolongement qu'il s'est passé dans notre vie lorsque nous avons décidé de lui obéir, que nous avons voulu le servir avec joie, que nous avons cru chaque jour davantage pendant toute cette période. Mes chers amis, souvenez-vous des expériences vécues quand vous étiez conscient du pardon de Dieu à votre égard. Souvenez-vous des expériences vécues grâce à votre enthousiasme et à la spontanéité que vous avez manifestée en désirant le servir. Souvenez-vous des expériences vécues lorsque les fins de mois difficiles étaient là et que vous vous rendiez compte que le Seigneur intervenait au-delà de toutes vos espérances. On a entendu un témoignage qui va dans ce sens. Il ne vous a manqué de rien, malgré que vous aviez le sentiment que vous n'aviez plus rien. Mais ces expériences-là, elles ont du sens. Elles ont de la valeur. Elles ont un but bien précis. Déclaration que Dieu a fait lui-même à son peuple dans le livre de Deutéronome au chapitre 8 et au verset 2, il dit ceci, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. » Ces expériences dont il est important que nous nous souvions, elles ont un but bien précis, non pas de nous conforter dans l'idée que tout va continuer à fonctionner comme ça et que tout va aller toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, elles ont un but bien précis. Le Seigneur le dit à son peuple. Mais pourquoi, quel est le but principal que ces expériences que nous avons, dont nous pouvons nous souvenir? C'est de nous préparer à des moments plus difficiles que ceux que nous traversons. C'est ça le problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous préparer à des moments plus difficiles, mais pourtant beaucoup plus grands sur quant à notre relation avec le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut tirer une remarque. Deuxième remarque. C'est que lorsque les choses de la terre, qui nous souvent nous occupent plus que tout le reste, conduisent à oublier l'ensemble de l'action de Dieu depuis le jour où nous l'avons connu, alors le danger est réel. Et quel est le danger? C'est de ne pas se rendre compte qu'un jour, nous connaîtrons des situations plus difficiles. « Je ne sais pas si vous avez remarqué le texte. Ce qui m'a frappé le plus dans ce texte, c'est que c'est justement au moment où tout allait pour le mieux pour les disciples que Jésus tient ce langage. Il tient ce langage quelque temps avant qu'il n'entre en Jérusalem, où là il va être acclamé, où tout le monde va dire « Hosanna, béni soit celui qui soit ». Les disciples sont en train de dire « Mais Seigneur, tous les gens commencent à être à notre faveur, les gens commencent à comprendre qui nous sommes, les gens commencent à se dire « Waouh, ces disciples avec Jésus sont des gens super !» Ils commencent à adhérer. « Tout va bien, Seigneur !» C'est à ce moment-là que Jésus va tenir un discours d'avertissement. C'est à ce moment-là que le Seigneur va les conduire à sortir de l'idée qu'il va devenir un roi terrestre pour changer la société. C'est ce moment-là qu'il choisit pour leur enlever l'impression qu'il va mettre tous ses ennemis sous ses pieds et qu'il sera toujours là pour résoudre l'ensemble des problèmes qui les préoccupent comme le jour de la tempête apaisée. Mais il claque de doigts et la tempête s'arrête. C'est ce moment-là que Jésus choisit pour dire « Attendez les amis, la suite. » La suite nous conduit d'ailleurs directement à la deuxième partie de ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Ce sera la plus longue partie d'ailleurs. Une suite qui commence par une déclaration où Jésus dit « Prenez deux épées, prenez, achetez des épées. » Acheter deux épées. Ah. Donc les disciples se disent, yes, enfin, le Seigneur nous dit d'acheter des épées. Allez, c'est le moment, le maître va entraîner le peuple vers une révolution moderne, musclée, pour chasser les Romains. À l'image de toutes ces révolutions musclées qui se passent dans le monde aujourd'hui et dont nous connaissons les conséquences, n'est-ce pas? Les disciples se disent, enfin, le Seigneur, il va régler les comptes, hein. Il va mettre les pendules à l'heure. Enfin, les méchants vont être boutés dehors, et nous, on va pouvoir être là, à l'avant-plan. Ah oui, c'est pas ça que Jésus veut dire. Lorsque Jésus dit, achetez des épées, en réalité, il utilise une image pour faire comprendre aux disciples qu'ils vont devoir faire face à une hostilité violente qu'ils ne connaissent pas encore. Ou pas suffisamment. Et que les moyens qu'ils auront pour se défendre sont insignifiants par rapport à ce qu'ils vont devoir affronter. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 34, écoutez bien ce que le Seigneur Jésus leur dit. Matthieu, chapitre 10, verset 34, il leur dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Difficile à comprendre, ça, hein? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors les disciples se présentent tout fiers, en disant, Seigneur, on a deux épées. Deux. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et Jésus pourtant leur dit, ça suffit. Honnêtement, comment mettre en place une révolution avec deux épées? Comment faire face aux troupes de l'armée des Romains, des troupes d'élite, armées jusqu'aux dents? Comment faire face? Jésus n'est pas un illuminé insensé. C'est pas quelqu'un qui va envoyer ses troupes au casse-pipe. C'est pas un insouciant. Vous imaginez ça? Qu'il aurait dit à ses disciples, vous avez deux épées, allez battre les Romains maintenant. Ah, il y a certains qui pourraient dire, ah, mais ce Dieu peut tout faire, hein? Ah ouais. C'est comme vouloir envoyer l'armée belge pour aller combattre l'armée russe, parce qu'ils sont un petit peu trop belliqueux en Ukraine. Vous vous rendez compte? Je dis ça parce que quand j'ai fait mon service militaire, c'est ce qu'on nous disait il y a 50 ans. Je faisais partie d'un peloton qu'on appelait le peloton Ricky, hein, peloton de reconnaissance. Alors on nous disait qu'on allait, c'était encore au temps de la guerre froide, on nous disait, mes chers amis, vous allez devoir faire face aux chars russes, dont le blindage des chars est de 35 centimètres d'acier. Et nous, quand on avait tiré 20 cartouches avec nos mitrailleuses, la mitrailleuse s'enrayait. On avait l'air malin, hein? C'est lieu pour ça qu'on n'allait pas souvent au tir, mais l'exercice qu'on nous faisait surtout faire, c'était la course à pied, pour apprendre à nous enfuir le plus vite possible. Vous avez compris? Ainsi, quand Jésus dit « deux épées suffisent », Jésus veut montrer la réalité de ce qui va se passer pour eux, donc pour nous. Ils vont devoir affronter des difficultés et ils vont devoir se contenter d'essayer de se défendre, tant bien que mal, simplement résister, sans chercher à vouloir obtenir un pouvoir quelconque. La preuve, c'est que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, lorsque Pierre tire son épée pour couper l'oreille du soldat romain, qu'est-ce que Jésus lui dit ? Remets ton épée à place. Ceux qui agissent par l'épée périront par l'épée. Donc vous avez compris ? En disant « deux épées suffisent », c'est ce que Jésus veut montrer. Et l'histoire nous a montré que c'est ce qui s'est vraiment passé. Comme Jésus leur a dit. Mes chers amis, ce ne sont pas deux épées qui pourront nous permettre de faire face à toute la méchanceté des hommes qui nous entourent et qui veulent notre perte. Ce ne sont pas des deux épées qui vont nous permettre de savoir faire face à tout ça. C'est la capacité de nous rendre compte que Jésus le dit lui-même, qu'il a été mis lui-même au rang des malfaiteurs. Il en était conscient, il le savait à l'avance, il savait tout ce qu'il avait à endurer. Et cela ne l'a pas conduit à lever ni la main ni la voix sur qui que ce soit. Alors qu'il en avait le pouvoir. On retrouve cette situation et cette notion dans l'apprentissage du roi David avec Saül. Si vous relisez bien l'histoire du roi David, pendant tout un temps, après forcément sa fameuse victoire contre Goliath, David va vivre tout un temps dans la cour du roi Saül. Pourtant, Dieu l'avait oint comme roi. Est-ce que vous avez bien observé son parcours jusqu'au moment où Saül est mort? Ça a été facile? Non, pas du tout. Voyez-vous, si Jésus déclare dans le texte que je vous ai lu au début, si Jésus déclare qu'il a été mis lui-même au rang des malfaiteurs, et nous savons que c'est ce qui s'est passé, il n'est pas anormal que nous soyons traités de la même manière. Je dirais même que c'est l'inverse qui est anormal. On a parlé de Joseph tantôt. La déclaration qui m'impressionne le plus dans le parcours de Joseph, après avoir été vendu par ses frères comme un vulgaire chiffonnier, après avoir vécu des épisodes, des hauts et des bas, comme on dit généralement, et qui retrouve ses frères. Vous avez bien entendu la déclaration de Joseph. Vous l'avez bien lu. Vous aviez médité de me faire du mal. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Waouh ! Est-ce qu'on est capable de dire ça aujourd'hui ? Vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. C'est cette réalité-là qui a fait dire un jour à quelqu'un que Dieu se sert parfois de l'opposition, comme une ménagère se sert d'un chiffon sale pour faire briller un beau meuble. Si Jésus a subi l'hostilité, le rejet, l'insulte, le mépris, les moqueries, l'ingratitude, pourquoi, honnêtement, en serait-il autrement pour nous? Pourquoi? Moi, je reste persuadé que nous devons connaître ce quelque chose que le Seigneur a connu et a enduré. Ne serait-ce qu'au travers de la déclaration de Luc chapitre 6 où il dit ceci, « Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Wow. Il a été écrit dans Ésaïe 53 qu'il serait mis au rang des malfaiteurs et il a été mis au rang des malfaiteurs. La déclaration du verset 37 que nous avons lu personnifie bien le statut que Jésus a endossé volontairement. Lui le maître, lui le fils de Dieu, lui le Seigneur, lui le roi des rois, comme nous l'appelons. Son statut a été celui de l'humiliation par les hommes. Mais heureusement, celui de la glorification par Dieu lui-même. Vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'on retrouve généralement ce canevas. L'apôtre Paul attire notre attention là-dessus. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il y aura des jours difficiles, dit Paul. Il y aura des jours difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, dit-il. Et il nous donne la liste de tout ce qui va provoquer ces temps difficiles. Nous disons les temps difficiles, c'est parce que les fins de mois ne sont pas faciles. Et je vous ai dit, en commençant, les fins de mois, tu ne te tracasses pas, Seigneur est là. Les temps difficiles, c'est pas ça. C'est ce que Paul dit quand il continue ce texte. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et il continue jusqu'au verset 9. Il y aura des jours difficiles. Cette liste démontre ces temps que nous vivons aujourd'hui. Un temps d'apostasie, ce qui signifie un temps d'abandon de la foi et des valeurs fondamentales de la foi. Et le mot apostasie, apostat, signifie non pas un croyant athée. Les apostats, ce sont des chrétiens qui renient la foi. Ça nous choque. Pourtant, c'est la réalité. Ce sont ces chrétiens apostats qui vont s'opposer un jour à ceux qui désirent témoigner de leur foi, qui vont manifester une perte de sérieux quant à ce que cela implique d'être chrétien. Allez un peu plus loin, au chapitre 4, l'apôtre Paul est très clair, aussi au verset 3, il dit ceci, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison, ils vont se gratter sans arrêt, ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Mais toi, dit Paul à Timothée, toi, sois sobre en toutes choses et supporte les souffrances. Supporte cela. Je suis bien conscient que ce que je suis en train de vous dire est une réalité que nous n'aimons pas. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays où forcément on n'est pas très conscient de ce que je suis en train de vous dire. Mais attendez. Tout va bien en Belgique, hein? Tout se passe pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Bon, ils se tapent bien sur la figure, hein, dans des débats télévisés pour l'instant. Enfin bon. bon, tout va quand même bien. Tout ça, c'est du théâtre, comme a dit un certain personnage dont je n'aime pas tellement le nom. Hein? S'il a dit c'est du mauvais théâtre, mais ça reste quand même du théâtre. Dixit Bart de Wever. Le théologien Bonhoeffer, le théologien allemand, qui a vécu pendant la guerre 40-45 et qui s'est opposé au nazisme et qui l'a laissé d'ailleurs au prix de sa vie, il a dit ceci. Tout appel de Christ conduit à la mort, et en premier lieu, la mort du vieil homme. Vous savez, c'est notre façon de pouvoir un jour subir la persécution, de la supporter, et même de la considérer comme étant là pour devant renforcer notre foi. Vous avez bien entendu ? Pour renforcer notre foi. C'est ça qui va produire l'œuvre parfaite de Christ en nous. Ce même théologien a d'ailleurs déclaré, seule la souffrance et l'endurance produisent l'œuvre parfaite. Une déclaration qui a été relayée par un autre homme de Dieu qui s'appelle John Henry Newman. Il a dit, rien ne se fait sans souffrance, sans humiliation, et toutes choses sont possibles par ces moyens-là. Ah ! Il faut que ça se passe comme cela. Pourquoi ? Parce que c'est écrit. Et pourquoi c'est écrit ? Pour bien nous montrer que ce n'est pas le fruit du hasard. Et même quand nous avons à faire face à des difficultés, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est là pour renforcer notre foi. Et pas pour dire, mais où est Dieu pendant que je suis en train de souffrir ? Je suis parfois un peu interpellé lorsque je vois des chrétiens qui forcément subissent ne serait-ce que des épreuves sur leur santé. Sont touchés dans leur santé. Je suis parfois interpellé quand je vois leurs réactions. Et je me dis, mais où est leur foi? Où est la solidité de leur foi? Pourtant, si cette parole de Jésus s'est accomplie pour lui et pour ceux qui ont suivi, je reste persuadé qu'elle doit s'accomplir pour nous. Si cette parole qui s'est accomplie au travers de Jésus lui a permis de renforcer son désir d'aller à la croix et d'aller jusqu'au bout, elle doit aussi s'accomplir pour nous, pour que ses vrais disciples ne soient jamais pris au dépourvu, jamais. Mais que, au contraire, leur foi soit renforcée. Si demain tu sors de chez toi et que tu désires parler de Christ à ton voisin et qu'il t'envoie une claque en pleine figure, est-ce que ta foi sera renforcée? Ou bien est-ce que tu vas avoir envie de lui retourner une deuxième? Oh, j'aime beaucoup, moi. Je sais pas, sont ceux qui connaissent Maurice Decker ici, ne serait-ce que par ses écrits. Maurice Decker a fait une déclaration dans un de ses livres que j'aime beaucoup, il a dit ceci. Il y a dans la vie des épreuves qui vous marquent, mais qui vous grandissent quand vous les surmontez. Je vais répéter ça. Il y a dans la vie des épreuves qui vous marquent, mais qui vous grandissent quand vous les surmontez. Et il prend cet exemple du roi David avec Saül, et il dit ceci. Dieu se sert parfois de toutes sortes de Saül dans notre vie. Un patron irascible ou pervers. Ah oui. Un collègue de travail hostile et vulgaire. Un voisin de palier ou de quartier qui forcément est égoïste, sans-gêne, tapageur. Un croyant rétrograde, avec un comportement scandaleux qui vous méprise. Un frère ou une sœur jaloux qui vous blesse simplement pour satisfaire son égo. Des membres de la proche famille qui sont querelleurs et qui sont moqueurs. un conjoint anti-Dieu, belliqueux, méprisant, désobligeant, utilisant parfois des moyens de pression insidieux et cruels pour empêcher la moindre expression de votre foi. Hein? Jésus est conscient du danger qui nous menace. Et il veut prévenir avant que ces événements ne fondent sur nous comme un véritable tsunami et dévastent la foi de certains d'entre nous, peut-être. Non. Il avait raison de prévenir ses disciples parce qu'il savait ce qui les attendait. Et l'histoire nous a prouvé que tous ceux qui se sont donnés à lui ont dû démontrer la solidité de leur foi, non pas comme Galilée, mais peut-être parfois en allant dans les arènes, jetés en pâture aux lions, ou en devenant des lampadaires dans les jardins de Néron parce qu'on les avait coupés en deux et qu'on les avait enduits de poids. Et on y a mis le feu pour éclairer les jardins d'un fou. Ah, mes chers amis, Jésus est conscient de cela. Et la preuve, c'est que très rapidement, c'est cela s'est passé avec Pierre, qui avait été prévenu, hein, faisait partie du groupe. Vous savez ce qui s'est passé avec Pierre, hein? Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que Pierre ne se comporte parce qu'il n'avait pas compris, il avait oublié ce que Jésus avait dit. Et devant une simple servante, il a dit, bon, moi je ne connais pas ce bonhomme. Nous savons ce qui s'est passé quand le coq a chanté, n'est-ce pas? Parce que la foi de Pierre était faible. La foi de Pierre était celle d'un adhérent qui avait quand même vécu pendant 3 ans avec Jésus. Il adhérait tout simplement. Mais Jésus a dû lui dire, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Waouh ! Serait-il possible qu'il y ait des gens qui viennent dans les églises d'une manière régulière et qui ne soient que de simples adhérents ? Oui, dramatique. Mais attention, parce que ceux-là ne résisteront pas face à la persécution, même venant d'une simple servante, il faut que leur foi soit beaucoup plus solide. Une foi basée non pas simplement sur leur étiquette « je suis chrétien ». Non. Ça me fait penser un peu à cette histoire, ce jeune homme qui était descendant d'une famille de noblesse, et qui était très content de la petite particule qu'il avait dans son nom. Vous savez, le petit « deux hein? ». Deux machins choses. Hein? Voilà. Un jour, il était engagé par un employeur qui était un ami de son père. Un jour, l'ami de son père, forcément, l'a observé, et puis il l'a appelé. Il a dit, viens un peu ici, mon cher ami. Je voudrais quand même vous dire quelque chose. Je crois, mon cher monsieur, que vous vous trompez si vous pensez vous faire une place au soleil en restant toujours à l'ombre de votre arbre généalogique. Vous transposez ça sur le plan chrétien? Certains se trompent en restant à l'ombre de leur titre de chrétien. Ce que Jésus veut, c'est que votre foi, la mienne, celle de tous ceux que nous connaissons, soit solide. À l'image d'une plante bien particulière, moi je ne suis pas très main verte. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je tourne la pelouse, c'est déjà pas mal, hein? Mais si je suis pas main verte, Hélène, il y a quand même une chose que je sais, c'est qu'il y a des plantes avec des racines qui sont au ras des pâquerettes. Ça, ce sont des plantes qui ressemblent à des mauvaises herbes avec des petites fleurs bleues, vous voyez. Je sais pas si vous en connaissez. Moi, j'en connais surtout que chaque fois que je les arrache, quand ma femme les met et que je les arrache en croyant enlever des mauvaises herbes. Chaque fois, c'est ma fête parce qu'elle me dit, attends, encore enlever mes petites fleurs bleues. Maintenant, elle a décidé de ne plus en mettre. C'est beaucoup plus facile, comme ça, les 7 ans, je ne lui arrache plus. Pourquoi je les arrache? Parce que ça vient tout seul. Ça n'a pas de racines. Ben oui. Mais vous avez déjà essayé d'arracher un pissenlit? Ça, je vous promets bien du plaisir, hein?
Là, généralement, qu'est-ce qui se passe? On n'arrache pas le pissenlit, on arrache les feuilles, mais on laisse la racine dans la terre. Et qu'est-ce qui se passe? On est tout content qu'on en ait pris débarrassé, et 8 jours après, ça rebelote. Hein? Vous savez quoi? Moi, je voudrais que tous les chrétiens soient des pissenlits. Avec des racines aussi profondes, au point que même si on leur coupe la tête, leur foi va rester et va continuer à faire des autres pissenlits. Tu veux être un chrétien solide? Deviens un pissenlit. Jésus a prévenu. Vous aviez tous les amis. Mais attention, un jour vous risquez d'être dépourvu de tout. Vous ne manquez de rien, mais un jour vous risquez de manquer de tout. Malgré que vous amassez pour gonfler le volume de vos économies, parfois, comme je le dis parfois à certains jeunes, en laissant de côté le vrai sens et les vraies valeurs de la vie, en oubliant que les cercueils n'ont pas de poche. Vous viviez dans l'insouciance de la réalité des bienfaits que je vous donnais, les considérant finalement comme normaux. Mais un jour, vous vivrez face à une réalité qui devra vous faire comprendre que la persécution, l'abnégation, les difficultés deviendront choses normales et surtout bien meilleures pour votre bien-être spirituel que lorsque vous aviez tout. Ces exhortations sont là dans le sens qui consiste à nous prévenir, mes chers amis, que la facilité dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est un leurre. C'est de la poudre aux yeux. Elle nous aveugle. Elle nous donne le sentiment que rien ne pourra nous arriver. Elle nous empêche de considérer qu'avant toute chose, ce qu'il faut, c'est affermir notre foi. Elle diminue notre capacité de remplir notre véritable mission. Elle nous rend amorphes. Elle ne nous permet pas de nous préparer à faire face à ce qu'un jour risque de nous obliger à prendre position. Mais justement, la question est, quelle sera notre position? Quelle sera notre position? Celle de Pierre devant une servante? Ou celle d'Étienne, le premier martyr de l'Église? Celle de Thomas qui ne voulait que voir? Ou celle de toute la liste des héros de la foi que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11? Ce matin, je voudrais vraiment être ce porte-parole de Christ pour faire en sorte de vous apprendre et de vous faire comprendre que votre foi doit être solide, ancrée sur la réalité que si Jésus a subi la persécution, s'il a été mis au rang des malfaiteurs, vous risquez un jour de l'être. Ne vous faites pas d'illusions. Ce que je considère souvent quand je vois certains chrétiens dans certains pays où ils sont vraiment persécutés, allez dans les pays où l'islam est en progression, allez là et voyez la fidélité de ces chrétiens. Ils savent ce qui les attend. Ils savent que quand ils vont sortir, ils sortent vivants, mais ils ne savent pas s'ils rentreront vivants. Mais leur foi, c'est du costaud. Ma responsabilité est de prier pour vous comme Jésus a prié pour Pierre, dont il connaissait pourtant l'attitude. Ma responsabilité est d'établir, de chercher à ce que vous ayez le fondement par excellence, qui est bien exprimé par Jésus en disant, si tu as bâti ta maison sur le roc, quel que soit ce qui arrive, ta maison ne bougera pas. Ma responsabilité, c'est de vous apprendre à avoir cette capacité de prendre position dans un monde qui est déboussolé, et de créer en vous tous une conviction profonde de ce que Christ est vraiment. Le compositeur Mendelssohn, il a composé une symphonie qui s'appelle Réformation. Et on lui a demandé, mais pourquoi avez-vous donné ce titre ? C'est très simple, a-t-il dit, parce qu'au temps de la Réforme, les gens avaient des convictions. Aujourd'hui, les gens n'ont plus que des opinions. Est-ce que ta foi est le résultat d'une conviction profonde, solide, ou le résultat d'une simple opinion ? C'est pas sans raison que Jésus a dit « Trouverai-je encore de la foi quand je reviendrai hein ?» Je vais conclure. Si Jésus a prévenu ses disciples avant d'aller sur la croix, c'est aussi pour nous prévenir de ce qui peut se passer et de ce qui va peut-être se passer. Vous savez que bon nombre de commentateurs politiques, des sociologues, prédisent un avenir douloureux à notre petit pays de cocagne. Peut-être un peu trop de cocagne. Aujourd'hui, j'entends bien tous les discours. On nous dit que tout va bien, que le pays est stabilisé. Vous entendez parfois les discours. Et la recherche du bien-être est la seule chose qui compte et qui occupe la pensée des hommes. Et tout cela peut nous laisser croire qu'il faut poursuivre dans cette démarche. Attention, mes chers amis. Et qu'il faut poursuivre dans une façon de concevoir la foi avec, par exemple, des prédications un peu light, hein, voilà, un peu populistes. Débarrasser de la puissance de persuasion de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Qu'il faut avoir un message super lissé pour nous conforter dans le désir de rester passif. D'avoir des responsables qui laissent tout dire ou tout faire pour que personne ne se sente repris. Des discours qui laissent penser que tout va bien et que rien ne doit être remis à sa bonne place et que chacun peut faire ce qu'il veut. C'est pas ça qu'il faut comme ça qu'on va affermir notre foi, vous savez. Dans une semaine, vous allez accomplir votre rôle de citoyen. Attendez après le 25 et vous allez voir ce qui va se passer. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on va continuer à vivre avec la même liberté qu'on vit aujourd'hui. Vous voulez un exemple ? Vous avez regardé le concours Eurovision ? Moi, pas. Par contre, j'ai vu le résultat. J'ai surtout entendu la déclaration de celui qui a gagné. Je dis celui parce que vous savez ce qu'il a dit ? Rien ne nous arrêtera plus. J'ai eu froid dans le dos, vous savez. J'ai eu froid dans le dos en entendant cette déclaration. Il faudra peut-être cela pour que les églises se remplissent à nouveau. Peut-être faut-il la persécution pour que notre foi s'affermisse à nouveau et retrouve sa piété première. Peut-être. Ce serait dommage d'en arriver là. Il faut agir bien avant. Il faut réagir maintenant, parce que je ne suis pas sûr que certains vont résister à ce choc quand il arrivera. Encouragement à maintenir notre foi ferme. Vigilance quant aux situations qui nous entourent et espérance. On l'a dit tantôt, le Seigneur ne parle pas du passé, il nous projette vers l'avenir. Jacob l'a dit. Espérant du retour de Christ. Voilà le mot d'ordre que je vous laisse en trois petits verbes de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.